wins 100 points out in the West.
Radio X Files avec Christian Page et Camille.
Oh my gosh, dude.
Radio X.
Oh oui, petite nouveauté de l'année 2025. On commence une heure plus tôt sur les ondes de choix 98.1 Radio X. Nouveau rendez-vous pour les Radio X-Fairs. Et sans plus tarder, voici l'extrait audio qui lance officiellement le premier épisode de la saison 2025.
I have no idea what it is.
Un objet volant non identifié survole les États-Unis à 18 000 mètres d'altitude. Des images captées par un résident du Montana.
A 500 mm lens.
De quoi alimenter toutes les spéculations. Le Montana abrite plusieurs bases militaires avec missiles intercontinentaux. C'est un ballon de surveillance chinois, affirme le Pentagone, manœuvré par Pékin. C'est inacceptable et irresponsable, dit le secrétaire d'État Anthony Blinken. C'est une violation de notre souveraineté et une violation de la loi internationale, ajoute-t-il. Il reporte sa visite officielle en Chine, prévue dimanche, à une date indéterminée, c'est-à-dire quand les conditions le permettront. Très vite, Pékin réagit et affirme que c'est un aéronef civil qui fait des recherches pour des fins météorologiques et que le vent l'a dévié de sa trajectoire. La Chine exprime son regret de cette intrusion involontaire. Le ballon serait l'équivalent de 3 autobus scolaires et serait muni de panneaux solaires ou de batteries de longue durée. Abattez le ballon, écrit Donald Trump, soutenu par l'ancien vice-président Mike Pence et le sénateur Marco Rubio. Mais pas question pour le moment de l'abattre. On le surveille, dit le Pentagone. Ce ballon ne présente aucun risque de sécurité à la population. Il y aurait des débris, dit-il, s'il est abattu. Il pourrait y avoir un impact sur la population civile. Pour certains experts, il faudrait ramener le ballon sur Terre et l'ausculter. Ils le considèrent comme une mine d'or qui détiendrait plein d'informations sur la technologie chinoise. On pourrait prendre leur équipement, dit-il, et mieux comprendre ce qu'ils font. Est-ce qu'ils prennent des photos? Est-ce qu'ils interceptent des signaux? Quelles sont leurs capacités? Le ballon se dirige maintenant vers l'est du pays. Pour Anthony Blinken, il faut maintenir le dialogue avec Pékin et garder les canaux de communication ouverts. Mais pas question d'avancer dans les discussions tant que ce mystérieux ballon survolera le pays. Et si on se fie au Pentagone, il sera là encore quelques jours. Ici Asa Bodley-Gurgis, Radio-Canada, Washington.
Et je suis très contente de le retrouver ce soir, l'animateur des Radio X-Files, dans ce qui s'avère être une émission presque spéciale ce soir. Bonsoir, Christian.
Bonsoir, Camille.
On est presque à tuer la une cette semaine. La façon que tu m'as teasé le sujet, on parle d'un rapport ce soir du projet Ciel Canada.
Oui, et tu es la première à qui j'en ai parlé un peu hier à l'émission de Danny au retour, parce que le rapport a été publié mercredi. Et je suis un peu le représentant journalistique francophone pour parler de ce rapport-là. J'ai fait partie, très humblement, il faut quand même le dire, mais j'ai fait partie du conseil de consultation du projet. Donc, j'ai assisté à une réunion, mais on a discuté un peu. Ces gens-là m'ont dit ce qu'ils souhaitaient faire. Puis bon, on a pris des échanges. C'était un peu un brainstorming. Et... Donc, j'avais le rapport entre les mains depuis quelques jours, mais pour des raisons d'embargo, évidemment, je ne pouvais pas publier ou rendre publique cette information avant que le bureau de la conseillère scientifique en chef du Canada le rende public, Mona Rainer. Et donc, c'est fait. On peut donc en parler de long en large. Et je ne voulais pas, bien sûr, que cette information-là soit... je voulais en parler avant que les autres médias en parlent, puisque... on est en position de le faire, nous, ayant le document en main et ayant été un peu consulté au cours de son élaboration. Donc, je peux parler un peu de quoi il en retourne. Et c'est un rapport que je dirais qui est plein de bon sens et on va le décanter ensemble ce soir. Et pourquoi on a débuté cette émission avec l'histoire du ballon chinois? Faut-il le rappeler? On était au début du mois de février 2023, lorsqu'il y a eu cet incident là, des ballons qui ont été observés, qui ont traversé l'espace aérien canadien, et puis éventuellement celui dont on parle dans le reportage de Radio-Canada. Il a été abattu au large de la Virginie, là, dans l'océan Atlantique. Et on le sait tous, hein, on a appelé ça l'incident des ballons chinois. Mais quoique les ballons chinois, là, la Chine n'était pas responsable de tous les ballons. Là. On s'est aperçu, en fait, en augmentant les systèmes de discrimination sur les systèmes radars, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres aéronefs non identifiés qui se sont révélés être des ballons. Je pense notamment à des ballons qui étaient lancés assez régulièrement par l'université d'Anchorage, en Alaska, et qui passaient du côté du Yukon. Mais... pour les systèmes de radar, il faut comprendre qu'il y a une capacité de discrimination du ballon, du radar, on ne veut pas détecter des oiseaux. Là. Donc, la sensibilité est ajustée de manière à ne pas capter des bancs d'oiseaux ou des trucs comme ça. Et on s'est aperçu qu'avec les années, ben, les systèmes, et on se disait, ben, les gros ballons, on va les détecter, on va continuer de les détecter, mais avec les années, hein, les ballons sont devenus de plus en plus petits, les équipements de plus en plus léger. Et on a vu apparaître également un autre joueur qui n'était pas là il y a 15 ou 20 ans, qui sont les drones. Et donc là, à partir de l'histoire du ballon chinois, nous a fait un peu prendre conscience que le ciel était peut-être occupé par des aéronefs qu'on ne pouvait plus détecter et qu'on ne voyait plus. Et effectivement, donc quand on a augmenté la sensibilité des systèmes radars, on s'est aperçu qu'il y avait plein d'aéronefs dans le ciel. Il y avait ce ballon chinois dont on a beaucoup parlé, mais on s'est aperçu également qu'on a abattu, hein, les autorités américaines ont abattu un ballon qui finalement était un ballon qui était simplement lancé par une université de l'université d'Anchorage pour prendre des relevés météo, rien de très mystérieux.
Ça brise un projet de recherche, mettons.
Oui, mais bref, ces systèmes-là n'apparaissaient pas. Et cette histoire de ballon chinois a un peu sonné l'alerte en se disant, attention, là, il y a peut-être maintenant, avec tous ces nouveaux équipements, ces nouveaux systèmes, il y a une possibilité d'un espionnage international qui est ouvert. Et on veut bien sûr s'assurer de l'hégémonie de notre ciel et de nos ciels, si j'inclus celui des États-Unis, parce que, faut-il le rappeler, on a deux frontières communes avec les États-Unis. On a la frontière sud, bien sûr, mais on a aussi cette frontière entre le Yukon et l'Alaska. Oui. Et faut-il le rappeler que juste l'autre côté de l'Alaska, c'est l'ancienne Union soviétique, ce sont les Russes qui sont là, et un peu plus au sud, c'est les Chinois. Donc, on comprend que sur la boule, là, les frontières ne sont pas très éloignées de ces pays qui sont jugés par le monde occidental, par les pays du monde occidental, comme étant des ennemis à la liberté et tout le reste. Donc, on veut s'assurer qu'il n'y a pas d'espionnage qui se fait. Donc, j'ai commencé en disant, ben, c'est bien de rappeler l'histoire du ballon chinois, parce que le ballon chinois va donner lieu à un incident ou à un événement, et c'est de cet événement-là dont on va parler ce soir, à partir du moment où on se rend compte qu'il y a des aéronefs inconnus dans le ciel, on sait qu'aux États-Unis, depuis 2022, ils ont mis en place un organisme étatique pour enquêter sur les phénomènes aériens non identifiés, hein, qu'on appelait jadis, il y a quelques années, mais qu'on continue encore d'appeler comme ça de manière populaire les ovnis, hein, parce que bon, c'est difficile de changer le lexique lorsqu'il est bien établi. Hein. Donc oui, en 2022, le département de la Défense aux États-Unis a mis en place LARO, hein, c'est un acronyme qui veut dire en français « Bureau d'identification des anomalies dans tous les domaines ». Donc ici, on ratisse large et il faut le rappeler, là, pour une certaine partie de la population, les ovnis ou les pannes sont synonymes d'engins d'origine extraterrestre, mais on va le voir encore ce soir, ça c'est une interprétation d'une minorité de la population. Hein. Et pour le HARO aux États-Unis, d'ailleurs, ils en sont à deux ou trois représentations devant le Congrès, ils ont publié trois rapports officiels, et chaque fois, ils martèlent qu'on n'a absolument aucune preuve que les phénomènes aériens non identifiés, même si certains d'entre eux semblent résister encore à l'analyse, rien ne permet de conclure qu'on soit en présence de visites extraterrestres.
Hors de tout doute, là, ça n'existe pas.
Voilà. Bon, on est toujours d'accord qu'un phénomène aérien non identifié, il est non identifié, donc ça peut être des extraterrestres, ça peut être le Père Noël, tu sais.
Oui.
Mais on est d'accord qu'avant de conclure à ça, il y a toute une liste d'interprétations possibles et beaucoup plus vraisemblables. Par exemple, un ballon pour l'espionnage qui a été lancé par la Russie paraît plus vraisemblable que des visiteurs venus de Betelgeuse. Hein. Donc on s'entend, là. Bon, il y a ces nuances-là. Et, mais surtout, c'est que les rapports, quels qu'ils soient, dans le détail, on devrait, pour avant de conclure une visite extraterrestre, on devrait, ou à tout le moins, dans les rapports d'observation, lorsqu'ils sont décantés et lorsqu'ils ont un minimum d'informations qui est vérifiable, parce que c'est ce que l'on a appris au cours des 20 ou 30 dernières années avec les sciences cognitives, c'est que les témoignages, en fonction du fait qu'on est en présence de quelque chose qu'on ne peut pas identifier, les témoignages doivent être revisés, hein, parce que l'imagination s'emballe très rapidement lorsqu'on est en présence de quelque chose d'inconnu. Et ce que les recherches également montrent, et ça je sais que c'est dur à avaler, puis c'est pourquoi je le répète, puis je vais le répéter encore dans les prochaines semaines, puis je vais le répéter au cours des prochaines années, parce qu'il faut que le message passe, que l'on soit un pilote d'avion, que l'on soit un policier, ou que l'on soit un cuisinier chez McDonald's, si on ne sait pas ce que l'on observe, les témoignages sont tous au même niveau. Mm-hmm. Oui, sont tous au même niveau. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, dans les années 70-80, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là, c'était d'emblée. On lisait dans les livres, hein, d'entrée de jeu, on nous disait « Oui, voici un témoignage d'OVNI, le témoin est un pilote, le témoin est un policier, le témoin est un médecin. Hein, » On avait l'impression que ces gens-là devenaient soudainement, parce qu'ils avaient une formation académique ou autre, ces gens-là devenaient de meilleurs observateurs devant l'inconnu. Mais non, malheureusement, devant l'inconnu, on est tous égaux. Puis si le pilote est peut-être excellent dans son avion pour déterminer, lorsqu'il voit un Airbus à 20 km de distance, il peut reconnaître un Airbus, puis il peut savoir si c'est un Airbus 380 ou un Airbus 320. Mais si c'est pas ce qu'il observe, il voit une lumière au loin, il peut pas déterminer si cette lumière-là est à 15 km de distance ou à 20 mètres de distance et de quoi il s'agit. Donc, à partir de là, il faut que les témoignages soient réévalués sur une base commune. Ensuite, ce que les recherches montrent également, puis c'est le point de vue de Larreau, puis c'était également le point de vue d'un rapport publié par la NASA en 2023 pour appuyer l'effort du Pentagone, c'est de dire il faut qu'on ait des données fiables. Ça suffit de dire le pilote raconte que l'objet a fait ceci, a fait cela, a vu ça. Est-ce qu'on a des données radar fiables au-delà du témoignage? Est-ce qu'on a des images fiables qui permettent d'assurer cette affirmation? C'est beau de dire l'objet a fait un virage à 90 degrés puis est passé d'une vitesse de 20 km/h à 2000 km/h en une seconde. Est-ce qu'on a des données qui permettent de vérifier ça ou est-ce qu'on a simplement l'interprétation de l'observateur? Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, c'est triste à dire, mais la Rhône aux États-Unis ne ferme pas la porte à des visites extraterrestres, mais dit que jusqu'à maintenant, toutes les observations auxquelles ils ont été confrontés et qu'il y avait de l'information qualitative et non pas seulement des témoignages, ces informations-là ne témoignent pas d'une technologie particulièrement exotique au point de croire en des visites extraterrestres. Donc, c'est un peu la position. Mais revenons un peu chez nous, l'histoire du ballon chinois avec cette initiative américaine depuis 2022 et également la volonté de la NASA d'appuyer les efforts du Pentagone dans cette démarche-là. Nous, on a été confrontés à ça. Ça nous passait un peu sous le nez. On se disait, ouais, mais bon, c'est des Américains. Et là, voilà que l'histoire du ballon chinois qui a traversé le ciel canadien avant de se retrouver au-dessus des États-Unis a un peu sonné l'alerte en disant, ben, attention, on est quand même sur le chemin. Là. Quelque part entre les deux, on est la zone tampon où on risque d'être survolé par ces mécanismes d'espionnage. S'il ne s'agit que de mécanismes d'espionnage, mais il peut y avoir plein d'autres choses. Alors, le gouvernement canadien, le bureau de Mme Mona Neimer, qui est la conseillère scientifique en chef du Canada, on dit, ben voilà, on va regarder ce qui est possible de faire pour enquêter, nous aussi, sur ces manifestations et qu'est-ce qui serait possible de faire pour s'assurer, d'une part, de l'hégémonie de notre propre ciel canadien, pour s'assurer que ça ne devienne pas le terrain de jeu de forces de nations étrangères pour éventuellement aller espionner du côté des Américains. Et d'un autre côté, qu'est-ce que l'on peut faire aussi, dans quelle mesure ces démarches pourraient avoir un impact sur le public? Parce qu'on le voit, il ne faut pas se le cacher, et j'aurais tendance à dire que pour moi, ça m'apparaît un peu comme un vœu pieux, là, mais on voit que depuis la mise en place de cet organisme LARO aux États-Unis, je sais que j'en parle, puis mais il faut bien comprendre qu'on est lié. Hein? LARO, oui. C'est lié, on peut pas faire abstraction l'un de l'autre. Mais depuis que LARO a été mis en place en 2022, ces gens-là sont passés de héros à zéro. Et pourquoi? Parce que quand l'organisme LARO a été mis en place, là, on annonçait dans les journaux, bon, voilà, le Pentagone, qui avait quand même fermé le dossier des ovnis en 1970. Hein. En 1969, en décembre 69, l'armée américaine avait mis fin à son fameux projet Blue Book, hein, dont on a fait des séries télé, etc., mm-hmm. qui fait beaucoup fantasmer. Et donc, en décembre 1969, le 17 décembre 69, très précisément, le département de la Défense aux États-Unis annonce qu'il met fin au projet Blue Book. Les conclusions sont publiées en janvier 1970, et ces conclusions, c'est il n'y a rien là-dedans. Grosso modo, c'est il n'y a rien. C'est toujours des gens qui se trompent, puis ils prennent des vessies, des lanternes, puis il y a des fraudes, des canulars et tout le reste. Puis si les gens avaient une meilleure connaissance du ciel et de la physique atmosphérique, ben on n'en serait pas là. Voilà, c'est un peu ce que l'on dit. Et on explique aussi qu'on s'est beaucoup intéressé à ça parce que, bon, c'était une période particulière. Il y avait eu la guerre froide et tout ça. Puis la possibilité éventuellement d'une menace communiste était présente à la fois dans le public, mais également chez les dirigeants, là, les militaires et tout le reste. La menace communiste était une menace qui était bien réelle. Donc, on ferme le dossier et on dit on s'intéresse plus à ça. Et là, voilà qu'en 2022, après le regain d'intérêt a commencé par une série de publications, notamment dans un article dans le New York Times en 2017. Et là, voilà qu'il y a eu un regain d'intérêt. Mais un regain d'intérêt pas chez les amateurs d'OVNI. Cet intérêt-là n'est jamais disparu chez les amateurs d'OVNI. Hein. À partir du moment où le gouvernement s'est désintéressé de la question, il y a des groupes civils qui se sont organisés pour prendre un peu le relais. La problématique des groupes civils, c'est qu'on rencontre du bon, du très bon, puis on rencontre aussi du mauvais et du très mauvais. Et très souvent, malheureusement, ces groupes, ces associations sont motivés davantage par la foi que par la science. Hein? Ouais. Je crois que les extraterrestres existent, puis voici, bon, je m'implique dans ce groupe-là parce que ça correspond à une vision que j'ai, à mes intérêts philosophiques, mystiques, bon, de croyance, etc. Et malheureusement, la qualité des rapports qu'ils émettent ou qu'ils publient est à la hauteur de leurs croyances. Donc, on s'était désintéressé sur le plan politique ou sur le plan militaire de cette question des ovnis. Lorsqu'on annonce en 2022, le Pentagone annonce qu'il va mettre en place cet organisme étatique pour enquêter sur les ovnis. Moi, je me rappelle très, très bien, là. J'allais sur les sites d'ufologues, appelons-les comme ça, là, oui. Ceux qui se définissent comme les spécialistes des ovnis, donc les ufologues. On était réellement, là, c'était le jour de la grande révélation. Là. Ces gens-là okay. croyaient vraiment, là, écoute, moi, là, on m'insultait. Hein? À partir de demain, Christian Page, tu vas être banni des ondes. À partir de demain, Christian Page, bye-bye, fais tes valises, décollez. C'était littéralement
parce
là.
Parce qu'ils pensaient que tu aurais tort.
Parce que moi qui dis tout le temps, ben, vous savez, depuis de nombreuses années, hein, j'ai un discours qui est très modéré par rapport à la question des ovnis. Je dis, est-ce qu'il y a peut-être des solutions alternatives? Et là, on ne parle que des ovnis. Lorsqu'on aborde des sujets plus profonds, les autres fantasmes des ufologues, hein, les enlèvements extraterrestres, ouais. Les mutilations animales, là, je m'inscris directement en fou. Je dis, non, ça, il y a des explications pour ça, puis ça ne tient pas la route. Et tous les cas d'enlèvements extraterrestres, on peut ou les expliquer par des parasomnies ou des troubles mentaux. Les parasomnies, ce sont des troubles du sommeil, oui. Hein, quand on parle notamment de la paralysie du sommeil. Là, au cas où des gens ne savent pas de quoi je parle quand je dis parasomnie, c'est pas une maladie, ça. Il y a des troubles mentaux. Donc, des gens, oui, qui peuvent avoir des troubles mentaux puis qui croient qu'ils se font par les extraterrestres communiquent avec eux. Ou bien on est en présence de canulars ou de mécanismes un peu comme ça, où des gens essaient de tirer profit d'une expérience un peu étrange. Bon, voilà. Et les mutilations animales, ben ça, je pense que les ufologues ont beau ramener ça sur le tapis. Mais je pense que depuis une enquête assez approfondie qui avait été menée par le gouvernement et de l'État du Nouveau-Mexique au début des années 80, je pense que les mutilations animales, c'est merci, bonsoir, on passe à autre chose.
Okay.
Mais bon, j'avais ce discours-là qui était plus tempéré. Puis là, ben, ces gens-là, en 2022, quand le Pentagone annonce qu'on va mettre un organisme en place, c'est, vous allez voir, c'est du jour au lendemain, ça va être le jour de la grande révélation. Il y aura un monde, littéralement, là, c'était le discours de certains, c'était, il y aura un monde avant l'arrow et un monde après l'arrow. Là. Tu sais, là, c'était vraiment là, un moment, on était à un moment charnière de l'histoire. Moi, évidemment, je riais bien, vous allez déchanter. Et effectivement, l'ARO se met en place. Et que nous dit l'ARO depuis sa mise en place en 2022? Ben, il n'y a rien qui nous permet de croire qu'on est visité par des extraterrestres.
Fait que là, c'est plus
et
bon.
C'est important de dire, Camille, que la position de l'ARO, elle correspond à la position de tous les gouvernements qui... Écoute bien, là. Elle correspond à l'opinion de tous les gouvernements qui se sont intéressés de près ou de loin à la question des ovnis. Donc, ce n'est pas que l'ARO isolé dans son petit bureau à Washington, D.C. qui dit ça, là. Au cours des années, en fait, depuis 1950, plusieurs gouvernements dans le monde occidental se sont intéressés à la question des ovnis. On pense par exemple aux Britanniques, à la France, on pense à l'Australie, à l'Espagne. Donc ces pays-là se sont tous intéressés à un moment donné ou l'autre de leur histoire à la question des ovnis. Ils ont mis en place des organismes pour enquêter sur ces sujets et tous ces organismes, sans exception,
reviennent à la même conclusion.
Ces phénomènes aériens non identifiés ne sont pas, probablement pas, des visiteurs extraterrestres. Et pourquoi probablement pas? Ben parce que les preuves ne sont pas là. Hein, à chaque fois qu'on se penche sur le sujet, on arrive à la conclusion que c'est autre chose. Donc, les amateurs d'OVNI ont beau crier au scandale, là, mais bon, c'est difficile de croire que les 195 pays du monde entier fassent tous partie d'un immense complot pour nous cacher la réalité de la présence des extraterrestres. Bon, mais bref, pourquoi ils sont passés de héros à zéro? Bien sûr, parce qu'au moment où ils ouvrent leur bureau, on se dit « voilà, c'est le jour de la révélation, le monde va changer ». Et deux ans après, trois rapports plus loin, ils nous disent, vous savez, ces observations-là, c'est rien d'autre que des gens qui confondent des étoiles, des planètes, des drones et des trucs comme ça. La preuve de visite extraterrestre, elle n'est pas là. On n'en a pas trouvé.
Fait que là, c'est pas de dire ce que les gens souhaitent, donc c'est plus bon.
Voilà, c'est plus bon. Donc là, c'est les héros d'hier sont devenus des gens qui nous cachent la vérité, qui transforment l'information, puis bon, etc., etc. Donc des zéros. Et bon, je comprends qu'on veut faire mieux, mais j'ai l'impression qu'on est ici en face à un vœu pieux. Mais bon, le débat, à partir de l'histoire du ballon, en 2023, le gouvernement canadien, donc le bureau de la conseillère scientifique en chef, a dit « nous, on va faire aussi la même chose ». Et elle a mis de l'avant un projet qui s'appelle le projet Sky Canada. Donc le projet Sky Canada, c'est bien important de le dire, son premier mandat. Là, ils viennent de rendre public mercredi en après-midi leur première recommandation. Le projet Sky Canada mentionne bien dès l'entrée de jeu que son travail n'est pas ou n'a pas été d'évaluer la nature des phénomènes aériens non identifiés. Hein, on va laisser ça à des spécialistes. Son travail consistait surtout à évaluer les services offerts aux Canadiens pour rapporter des phénomènes aériens non identifiés et quels étaient au niveau de l'architecture administrative canadienne, les mécanismes qu'on pouvait mettre en place pour s'assurer d'une surveillance non seulement accrue de notre espace aérien, mais également que des gens, et pas essentiellement des gens du domaine militaire ou de l'aviation civile, mais que monsieur et madame tout le monde puissent à leur tour bénéficier de support pour pouvoir rapporter ces observations d'OVNI.
En sous-propos, Christian, est-ce que c'est un peu aussi de vérifier si nos systèmes de sécurité nationaux sont à la fine pointe?
Tout est lié. Tout est lié, bien sûr. Il suffit de lire le rapport pour voir que tout est lié. À la différence des Américains, ça c'est quand même intéressant parce que à la différence des Américains, le ARO aux États-Unis se consacre surtout à l'étude des observations d'OVNI rapportées par le personnel militaire ou du personnel de l'aviation civile ou d'un arcane quelconque du gouvernement. L'ARO ne collige pas les observations d'OVNI qui proviennent du public.
Okay.
Donc ça, c'est très important de le mentionner. Alors que le Ciel Canada ou Sky Canada, son objectif est de pouvoir offrir au public en général aussi un mécanisme pour pouvoir apporter des observations d'OVNI. Cela étant dit, il faut quand même... Tu me le dis hein, quand tu voudras prendre une pause, parce que moi, je peux t'entretenir comme ça pendant 3 heures.
Hein. Écoute, on peut y aller encore avec peut-être un 5 minutes avant de prendre okay. une pause. Je cherche le bon point. Tu me diras le ouais. moment opportun.
OK. Bon, donc, juste avant la pause, disons... je t'ai parlé un peu de comment les Américains avaient abordé la question des ovnis avec le projet Blue Book et tout le reste. Le Canada aussi a eu sa petite... puis je te dis que les conclusions de Larrault correspondent aux mêmes conclusions de tous les pays occidentaux à travers le monde qui se sont sur la question des ovnis depuis les années 50. Et ça inclut le Canada. Parce que oui, le Canada, à un moment donné de son histoire, s'est penché sur cette question des ovnis. Comme à peu près tous les pays, hein, on s'est dit, qu'est-ce que c'est que ces ovnis? Puis effectivement, les années 50 ont été marquées par cette peur du communisme. C'était dans un point... La première menace était ce qui est aujourd'hui l'ancienne Union soviétique.
Oui.
Mais il y avait également la Chine qui est devenue communiste. Donc on s'inquiétait de ça. Et la première démarche fédérale connue sur la question des ovnis remonte au tout début des années 50. À ce moment-là, on parlait dans la presse de ces apparitions. Hein, les ovnis de l'époque s'appelaient les soucoupes volantes, hein, c'est le nom oui. qu'on leur donnait, les soucoupes volantes. Et il y avait au ministère des Transports, il y avait un ingénieur dans le domaine des communications, un type qui s'appelait Wilbert Smith. Et ce Wilbert Smith était très intéressé par cette question des soucoupes volantes. Pour lui, là, c'était une démarche presque personnelle. Ça va devenir beaucoup plus personnel après, mais à ce moment-là, au tout début des années 50, il a un intérêt pour ça. Il lit dans la presse ses rapports sur les soucoupes volantes et ça l'allume. Wilbur Smith est convaincu, hein, à la lecture de ses nombreux rapports, il est persuadé que les ovnis utilisent pour se déplacer un système de propulsion par énergie électromagnétique. Donc, fouille-moi où il est allé chercher ça, là, mais bon, on peut voir n'importe quoi dans la lecture, mais je pense que le fait que des témoins aient raconté qu'au moment où ils avaient observé un ovni, l'autoradio s'était mis à gricher ou que la voiture était tombée en panne, ou, tu vois, ce genre de truc, là, il y avait eu des pannes électriques, on rapportait ça sur le passage des soucoupes volantes. Alors, Wilbur Smith arrive probablement qu'en puisant dans ces récits, il forme cette idée que les soucoupes volantes sont propulsées par de l'énergie électromagnétique. Et là, il va voir ses supérieurs. Puis ça, c'est intéressant de faire cette nuance-là. Hein. Il va voir ses supérieurs non pas pour les convaincre qu'il faut étudier les soucoupes volantes, mais il convainc ses supérieurs au ministère des Transports qu'en étudiant les soucoupes volantes, on pourrait développer des mécanismes de propulsion par énergie magnétique. Et le ministère des Transports, à ce moment-là, est sensible au fait que partout dans le monde, et particulièrement dans le domaine de l'ingénierie, on parle de plus en plus de propulsion magnétique. On parle qu'on pourrait propulser des sous-marins par énergie magnétique. Il pourrait y avoir des trains à énergie magnétique.
Donc, okay. Et qui, c'est le futur.
Éventuellement, oui, et qui éventuellement existe aujourd'hui, là. Mais à l'époque, c'était très futuriste de penser ça. Et finalement, Wilbur Smith devait être un bon vendeur parce qu'il a réussi à vendre l'idée. Et là, il va mettre en place un petit projet qui est une initiative personnelle. Ce n'est pas une initiative gouvernementale. On l'autorise à utiliser les différentes sources d'information du ministère des Transports. On l'utilise à utiliser également les équipements du ministère des Transports. Et il reçoit une petite somme d'argent pour l'encourager dans ses recherches. Mais ce n'est pas un projet d'ordre gouvernemental, mais c'est vraiment une initiative privée de ce Wilbur Smith. Et ce projet s'appelle le projet Aimant, hein, le projet Magnet. Et pourquoi projet Aimant? Bien évidemment, hein, c'est l'énergie électromagnétique, ouais. Donc c'est le nom qu'il donne au projet. En 1952, Wilbur Smith envoie un premier rapport à ses supérieurs en disant, c'est assez étonnant parce qu'il a étudié une vingtaine de rapports d'observation d'OVNI, mais sur la foi de ces 20 observations d'OVNI, il dit, j'arrive à la conclusion que ces engins font preuve d'une technologie tout à fait extraordinaire et ils sont très certainement d'origine extraterrestre. Là, quelque part, là, ça a comme disjoncté. Là. Au ministère des Transports, on s'est dit, attends une minute, là. Ils sont où tes preuves pour nous dire qu'on est visité par des extraterrestres? Parce qu'il faut savoir, Camille, qu'au début des années 50, aujourd'hui, c'est spontané. Hein? Aujourd'hui, tu parles aux gens, OVNI, soucoupe volante. Immédiatement, on fait cette association OVNI égale extraterrestre. Mm-hmm. Hein? C'est passé dans la culture populaire. Dans les années 50, c'était pas aussi évident que ça. Dans les années 50, d'ailleurs, un sondage, là, dès la fin des années 40, un sondage de la firme américaine Gallup démontrait que quand on posait la question aux gens « Qu'est-ce que vous pensez que sont les soucoupes volantes? » Les gens répondaient « Des engins russes, des erreurs d'interprétation, des canulars. » Il y avait les extraterrestres n'étaient pas dans l'IS. Donc, les gens ne faisaient pas cette association-là. Les soucoupes volantes, c'était n'importe quoi, quelque chose qui vole, on ne sait pas c'est quoi, mais c'est possiblement des Russes. C'est comme ça que les gens voyaient la question des soucoupes volantes.
Fait qu'on est avant l'âge d'or, de la pensée, de l'existence.
D'extraterrestres, voilà. Les extraterrestres, on ne fera pas un cours d'histoire, là, mais les extraterrestres, cette idée-là des visiteurs extraterrestres va être introduite aux alentours de 1952-53 par un auteur américain qui s'appelle Donald Keough, qui lui va marteler avec des livres et des apparitions publiques, va marteler l'idée que les soucoupes volantes, finalement, ce sont des visiteurs extraterrestres. Mais avant Donald Keough, cette idée-là était dans l'air. On la véhiculait à travers la science-fiction. Déjà, dans les années 30 et 40, il y avait des petits magazines de science-fiction populaire qu'on appelait des pulp magazines. Hein, pulp, parce que la qualité du magazine était tellement mauvaise qu'on voyait la pulpe du papier, hein, des pulp, et on racontait des histoires d'envahisseurs venus de Vénus et autres. Donc, l'idée était là dans l'air, mais c'était pas, on l'associait pas ouvertement avec des soucoupes volantes. Alors, tu comprends, quand Wilbur Smith dit à ses supérieurs, ben là, je pense, messieurs, qu'on est en présence de visiteurs extraterrestres, ben, ses supérieurs lui disent, ben là, on aurait besoin de meilleures preuves que ça. Okay. Et on décide, à ce moment-là, sur les commentaires de Wilbur Smith, on décide de mettre en parallèle un nouveau programme qui, là, va impliquer le département, le ministère de la Défense, on est au Canada, le ministère de la Défense et le ministère des Transports. Et c'est une série de réunions qui va s'appeler Projet Second Story. Story dans le sens étage, là. Projet de deuxième étage. Et il va y avoir, au départ, il devait y avoir 8 ou 9 réunions. Et après la troisième ou la quatrième réunion, on a abandonné. Hein. Celui qui dirigeait ces rencontres-là était un astrophysicien qui s'appelait Peter Millman, qui était attaché au Centre national de la recherche scientifique à Ottawa. Et lui, après 3 ou 4 réunions, là, il a compris qu'il n'y avait rien là-dedans, que Wilbur Smith fantasmait sur les extraterrestres de manière personnelle.
C'est trop pour lui.
c'est clair. Que c'est pas parce que ça, un témoin dit que ça a zigzagué dans le ciel que ça vient d'une autre planète. Là, je veux dire, je remettrais en question le témoignage avant de remettre en question. Je remettrais davantage l'hypothèse extraterrestre et le témoignage avant de conclure à de telles inepties finalement.
Okay.
Et ça a été merci, bonsoir. Hein. Après, là, il y a eu cette courte étape avec le projet Magnet, avec en parallèle le projet Second Story qui est venu un peu jeter de l'eau froide sur l'enthousiasme de Wilbur Smith. Et ça a été la fin du rôle canadien d'enquête sur les ovnis. Après ça, le rapport, ce qui s'est passé, jusqu'en 1967, les observations d'ovnis étaient envoyées au département de la Défense, qui ne faisait strictement rien avec.
Okay.
Quand je dis département de la Défense, corrige-moi, c'est le ministère de la Défense au Canada. Okay. Hein? Et donc, on l'envoyait au ministère de la Défense qui, eux, finalement, en 1967, ils ont dit « Hey, ça crée-nous patience. On n'en veut pas de vos maudits rapports. » Alors, finalement, ce que l'on a fait jusqu'au milieu des années 90, quand on recevait des rapports, on les envoyait au Centre national de la recherche à Ottawa, à l'Institut Hedberg, qui s'intéressait particulièrement aux météorites. Parce que derrière une observation d'OVNI pouvait peut-être se cacher une observation d'une météorite. Et si quelqu'un disait « j'ai vu un OVNI tomber derrière la maison chez nous » ou « une boule de feu tomber derrière la maison chez moi », ben on pouvait se dire « c'est peut-être une chute de météorite, donc on va envoyer des enquêteurs ou des astrophysiciens pour essayer de récupérer la météorite ». Mais on s'est aperçu que cette démarche-là ne valait pas le coup. Entre 1967 et 1995, à peu près, c'est des milliers de rapports qui ont été envoyés à l'Institut Hedberg. Ça prenait de la place, ça demandait à des gens de lire ces rapports-là. Et on a récolté quoi? 3 météorites en 30 ans. Fait qu'on s'est dit, non, ça ne vaut pas la peine. Merci, bonsoir, ça va se terminer là. Donc, techniquement, le gouvernement canadien ne s'est jamais intéressé à la question des ovnis, si ce n'est un court momentum au début des années 50 avec le projet Magnet, qui était d'abord une initiative privée de Wilbur Smith et ensuite le projet Second Story, dirigé par Peter Milman, qui est venu fermer la porte à ce sujet-là. Donc, le projet Sky Canada est la première initiative canadienne depuis les années 50 sur le plan étatique pour se questionner sur la question des ovnis. Et là, je te parle du rapport après la pause.
Radio X-Files avec Christian Page et Camille.
Radio X.
De retour à l'émission, et comme mentionné tout juste un peu avant la pause de Christian, après la fin des années 90, on se retrouve en 2022, le début du travail pour le projet Ciel Canada. Je pourrais dire que dans l'expression « être laissé sur la filière 13 » au gouvernement fédéral, c'est un peu ce qui est arrivé avec la question des ovnis au Canada. Ah, on avait mis ça sur pause pas mal.
Ah, tout à fait. Il n'y avait absolument aucun intérêt pour cette question des ovnis. L'intérêt s'est ravivé avec l'histoire du ballon chinois là, en 2023. Et là, donc, on vient de publier mercredi ces recommandations. Le document s'appelle « Gestion des signalements publics de phénomènes aériens non identifiés au Canada ». Donc, rapidement, hein, je le rappelle, je l'ai mentionné un peu plus tôt, l'organisme en question n'avait pas pour mandat d'étudier la nature des ovnis, hein, mais plutôt de qu'est-ce que l'on peut faire avec ces observations. Donc, on a déjà constaté une série de lacunes. Première lacune, c'est qu'au sein des services gouvernementaux, il n'existe aucune cohésion pour enregistrer ces données. Donc, oui, la GRC, de temps en temps, reçoit des rapports du public, mais bon, qu'est-ce qu'on en fait? On ne le sait pas.
Okay.
Même dans le cas du Québec et de l'Ontario, où il y a des polices provinciales, les services provinciaux reçoivent aussi des observations d'OVNI, mais on ne sait pas quoi en faire. Et le ministère des Transports, l'aviation civile, l'armée, donc tous ces organismes-là, quelque part, reçoivent de temps en temps des observations d'OVNI. Et au Canada, il faut le savoir, de façon générale, auprès de la population, du public, on enregistre ou on collige entre 600 et 1000 observations d'OVNI par année.
Quand même!
Oui. Malheureusement, sur le plan civil, c'est qu'il n'y a rien. Et ces rapports-là tombent entre les mains d'organismes. Et je l'ai mentionné un peu plus tôt dans l'émission, il y en a qui font du très, très bon travail. Je pense notamment à mon ami Chris Rutkowski, qui a aussi été conseiller pour ce projet-là. Mais il y a aussi des organismes qui sont tout à fait fantaisistes et qui font
Des charlatans?
Pas des charlatans, mais qui vont surtout instrumentaliser ces témoignages-là pour essayer de nous vendre du petit bonhomme vert, tu vois, un peu
okay,
genre.
Oui.
Donc, c'est un peu ça. Et donc, on se dit, on identifie, le rapport identifié, bon, on dit, voilà, on n'a pas de cohésion. Il n'existe aucun organisme civil reconnu pour recevoir les observations d'OVNI. Donc, oui, il y a des associations. Au Québec, il y en a quelques-unes. Mais ce sont, encore une fois, et je l'ai mentionné un peu plus tôt, des gens qui sont très croyants, qui ont des visions, qui ont des interprétations de ces manifestations-là. Et ce ne sont pas des organismes civils qui sont reconnus pour leur sérieux. Donc, on n'a pas ça. Et à moins d'une menace directe, le rapport mentionne qu'à moins d'une menace directe, les organismes fédéraux n'enquêteront pas sur les ovnis. Hein. Donc, c'est bien sûr, si vous me dites, si on rapporte qu'un ovni a commencé à lancer des jets laser sur la population, on va enquêter. Mais à part de ça, s'il n'y a pas de menace, ça n'intéresse pas vraiment le gouvernement.
OK.
Il y a également une participation insuffisante du milieu scientifique. Mais c'est un peu comprenable, hein, parce que les ovnis, malheureusement, à cause de la façon dont le sujet a été traité dans les médias et dans les médias sociaux et avec les ufologues qui nous ont raconté toutes sortes d'histoires d'enlèvements d'extraterrestres et tout le reste, on comprend que les gens du milieu scientifique ne sont pas très intéressés d'aller se frotter à ce sujet-là. S'ils s'y intéressent, ils vont le faire de manière très secrète, en silence. Ils vont étudier quelques rapports, vont en parler avec des collègues de travail, mais ils ne sortiront pas sur la scène publique pour dire « voilà, on s'est intéressé à ces sujets-là ». Ils ont peur d'être associés à un sujet qui, il faut bien le dire, sent un peu de soufre.
Ensuite, je te dirais, Christian, tu es, je pense, une des personnes les mieux placées pour en parler. S'exposer sur ce sujet-là, ça peut avoir deux côtés à la médaille. Et se faire lancer des roches, ça ne tente peut-être pas tout le monde non plus.
Non, puis quand tu as une bonne carrière, tu sais, tu es un scientifique, tu as une bonne carrière dans le domaine de la physique ou de l'astrophysique, ben, tu n'as pas envie de te faire insulter par des gens qui sont sur les médias sociaux, faire l'objet exact. D'une espèce de campagne de salissage sur les médias sociaux. Puis je l'ai fait, hein. Moi, je veux dire, on s'est attaqué à moi, on s'est attaqué à des proches. On a, tu sais, je veux dire, on a débordé fort, là, tu sais, mm-hmm. là, tout ça pour essayer de me discréditer. Là, bon, fais ton chemin, là, mon petit bonhomme. Là, tu sais, bon, bref. Et là, on s'est dit, il faut également, il y a une lacune au fait qu'il n'y a pas assez d'initiatives. Ce que déplore le rapport, il n'y a pas suffisamment d'initiatives pour encourager la culture scientifique. Et ça, malheureusement, je le constate moi-même année après année. On dirait que les sujets, la vérité a de moins en moins droit de résidence. C'est okay. ce que je constate. Et on préfère nous raconter, et là, je sais, c'est toujours un peu mon même cheval de bataille avec les médias au Québec, là, mais on dirait que la vérité s'intéresse plus. C'est pas winner, ça, la vérité. Bon, et ça, le rapport aussi le mentionne. Les modèles, ce que l'on souhaite faire, et je le mentionne, c'est plein de bon sens. On a regardé ce que les gens de Ciel Canada ont fait. Ils ont regardé d'autres modèles qui existent ailleurs dans le monde, notamment trois organismes. Hein. On a au Chili, on a un organisme qui s'appelle le CEFA, là, si on prend l'acronyme, qui veut dire, je le traduis de l'espagnol, c'est Unité d'études des phénomènes aériens anormaux. Et c'est dirigé par c'est sous la tutelle de la Direction générale de l'aéronautique civile. Bon, c'est l'aviation, c'est Transport Canada ici. Là, bon. Donc, c'est cet organisme-là qui joue un peu cette relation entre l'étude du phénomène et le public. Donc, les gens qui voient des phénomènes aériens inconnus peuvent référer leurs observations à cet organisme-là. Et là, on a des gens, des ingénieurs en aéronautique, des spécialistes en physique, en astrophysique, la physique atmosphérique. Et ces gens-là essaient de regarder ce que les gens ont pu observer. Et évidemment, tu comprends, comme c'est un organisme étatique, il y a une espèce de porosité entre les différents organismes, les organismes gouvernementaux. Moi, là, ou les ufologues au Québec, je me rappelle, moi, dans les années 80, quand j'enquêtais ces ovnis, je ne pouvais pas prendre mon téléphone et appeler le ministère de la Défense et dire « Oui, avez-vous fait des expériences ou des vols militaires au-dessus de Chibougamo à telle date, à telle heure? » On m'aurait dit « Va te faire foutre. » C'est ça qu'on m'aurait dit. Tu comprends-tu? Donc, quoi qu'en disent les ufologues, là, c'est comme ça que ça se passe. Alors que ces organismes-là, qui sont des organismes du gouvernement, bien évidemment, eux ont la possibilité de vérifier avec la gendarmerie, les services de police, les services militaires et autres, de voir s'il y a eu, par exemple, un vol en particulier ou des exercices militaires à telle heure ou à tel endroit pour essayer de déterminer ce que les gens ont pu observer. Donc, on a cet organisme-là au Chili. On a un excellent organisme semblable en France qui a été mis en place depuis le milieu des années 70. On en a souvent parlé lorsqu'on aborde la question des ovnis, toi et moi. C'est un bureau qui s'appelle le GEPAN, qui veut dire Groupe d'enquête et d'information sur les phénomènes aérospatiaux. Il a été créé au milieu des années 70. À deux reprises, le GEPAN, d'ailleurs, dont tous les dossiers sont accessibles sur Internet, le GEPAN précise bien qu'ils n'ont jamais, malgré qu'ils sont là depuis le milieu des années 70, ils n'ont jamais rencontré un seul cas qui permet de croire en la visite extraterrestre. Mais néanmoins, ils continuent d'enquêter et les rapports sont disponibles. Et le GEPAN, à deux reprises, et c'est intéressant de mentionner qu'à deux reprises, pour des raisons économiques, on a voulu fermer le GEPAN. On s'est dit, ben là, écoutez, s'il n'y a pas d'extraterrestres et vous n'enquêtez pas sur des extraterrestres, ben fermons ça, ce bureau-là, ça sert à rien. À quoi ça sert? Et il y a eu deux audits, et dans les audits, on a conclu que finalement, c'est intéressant que les gens ne se sentent pas délaissés. Hein? Les gens qui voient des ovnis ne sont pas des fous. Ils voient quelque chose, ils n'arrivent pas à expliquer ce que c'est. Ils ont envie de communiquer avec quelqu'un. Ils ont envie de signaler leur observation. Donc, pour des besoins d'ordre civil, laissons l'organisme en place avec des ingénieurs, des spécialistes qui peuvent répondre aux questions du public et qui, en même temps, fournissent aux médias une ressource. Hein? Si les médias veulent parler d'ovnis, ben, tu peux appeler le clin-clin au coin de la rue chez vous qui va te raconter n'importe à quelle histoire, mais si tu es préoccupé de dire, OK, on fait une émission de radio, on fait une émission de télé, on va avoir des intervenants qui sont sérieux, bien, appelons le GEPAN, c'est un organisme qui est là en place depuis maintenant les années 70 et qui enquête sur ces phénomènes-là. Ils ont enquêté sur plus de 5000 ou 6000 observations d'OVNI. Donc, c'est un très, très bon modèle, et bien sûr, il y a ce modèle de l'ARRO aux États-Unis qui existe depuis 2022. Le souhait de Ciel Canada, dans ses recommandations, c'est de créer un organisme qui va correspondre à ce qu'on peut retrouver dans ces pays et qui font un excellent travail. Donc, l'organisme en question, il n'est pas déterminé. Hein? C'est dans le rapport en question, on nous dit qu'il pourrait s'agir de l'Agence spatiale canadienne, si l'Agence spatiale canadienne veut bien prendre relever le défi. C'est une agence qui est reconnue, c'est une agence qui est considérée avec sérieux.
C'est un fit naturel, je pense.
Oui, puis c'est un organisme également qui est apprécié du public. Hein? Tu comprends? C'est un organisme civil. C'est pas les militaires. C'est les militaires cachots ou quelque chose. C'est pas militaire, c'est un organisme civils, ils ont des belles réalisations. Puis, dans l'opinion publique, l'Agence spatiale canadienne, c'est une belle agence, hein, qui a fait du bon travail. Donc, c'est un organisme qui pourrait prendre le relais facilement. On propose également de créer au sein de l'Agence spatiale, parce que, bon, l'Agence spatiale a autre chose à faire que d'enquêter sur les ovnis, mais de créer au sein de l'Agence spatiale, si c'est elle, hein, on le précise bien, le mandat n'a pas été donné encore, mais on travaille avec cette
idée-là.
On est
dans les ici.
Ici. Et si l'Agence spatiale canadienne acceptait de relever le défi, on pourrait créer au sein de l'Agence spatiale un petit groupe de gens qui seraient spécialisés. On pourrait avoir des ingénieurs en aéronautique, des spécialistes en physique atmosphérique, des astronomes, etc. Donc, ces gens-là, des gens qualifiés avec des formations académiques qui pourraient recevoir, colliger les observations qui sont rapportées et essayer de faire un décantage à travers ça. Évidemment, on dit au-delà de cet organisme, il y a au niveau fédéral, il faudrait encourager également, d'une part, le public à rapporter leurs observations d'OVNI à ce groupe qu'on aurait créé et également de favoriser les pilotes et des gens dans le domaine de l'aviation, par exemple, de signaler ces observations, parce que, bon, évidemment, on comprend qu'il y a toujours une espèce de résistance. Si je signale une observation d'OVNI, est-ce qu'on va me prendre pour un débile manteau? Donc, on essaie d'enlever un peu la stigmatisation qui entoure le fait qu'on rapporte des observations d'OVNI. Donc, ce sont les grandes lignes que l'organisme veut mettre en place. Et c'est plein de bon sens. Moi, j'ai lu ça, puis je me suis dit, c'est plein de bon sens. On veut également encourager des activités à caractère scientifique menées par le public en général. Et ce que l'on déplore, et ça, on le comprend bien, à plusieurs reprises dans le rapport, il est question d'information. On insiste beaucoup sur... Il faut éviter les informations erronées et la désinformation. Hein? Et visiblement, on ne dit pas noir sur blanc les extraterrestres, les petits hommes verts, mais il suffit de lire leur rapport pour comprendre bien de quoi on parle ici. Ce sont justement tous ces propagandistes d'histoires fantaisistes et fantastiques. Et ce que le rapport dit, il faut encourager des activités sociales, des activités publiques, où on va développer non seulement un sens critique, mais développer également une meilleure connaissance du monde qui nous entoure. On serait étonné de voir le nombre de fois où des gens ont signalé des observations de qui se sont révélés finalement être la Lune ou la planète Vénus. Les gens ont une mauvaise connaissance du ciel. Et donc, il faut essayer d'encourager des activités civiles auprès des jeunes pour qu'on apprenne à avoir une meilleure connaissance du ciel.
C'est tellement fascinant en plus pour l'astronomie. Là. Puis la désinformation au-delà de justement les phénomènes OVNI, c'est le cheval de bataille des années, des temps modernes, des réseaux sociaux.
Oui, c'est... Et voilà, il y a justement des éléments, on nous parle justement de ça, l'importance des médias, l'importance des médias sociaux, essayer d'avoir un discours qui soit beaucoup plus proche, en fait, d'un discours scientifique qu'un discours qui soit alimenté par des hypothèses fantaisistes et échevelées. Je viens de te prendre les deux minutes qui restent pour te dire, le rapport en question se termine sur un sondage. Il y a des éléments qui sont quand même intéressants. C'est un sondage qui a été mené en ligne entre le 15 et le 27 août 2024.
Okay.
À l'échelle pancanadienne, il y a eu 1008 répondants. Et ce qu'on découvre là-dedans, il y a des éléments intéressants. Hein? Il y a une minorité de gens, à peu près 30% des gens, qui sont préoccupés par les phénomènes aériens non identifiés. Donc, on voit que même si on en parle beaucoup dans les médias, les gens sont préoccupés par leur portefeuille, la crise du logement et bien d'autres choses avant d'être préoccupés par les ovnis. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'y intéresser. Les gens disent, ben oui, c'est intéressant, mais bon, c'est intéressant, mais pas au point de devenir une préoccupation.
OK.
Près de 40% des répondants considèrent que les phénomènes aériens non identifiés peuvent représenter un enjeu pour la sécurité aérienne. Et là, on l'a vu, si on avait besoin d'une preuve, on l'a vu il y a quelques jours, lorsqu'un drone est allé frapper un avion qui luttait contre les incendies en Californie. Hein. Donc oui, effectivement, faire voler des drones dans des zones où il y a des avions qui se promènent, c'est pas une très, très bonne idée.
Non.
Il fallait vraiment être un bel imbécile. C'est bon, cela est un commentaire un peu éditorial. Mais bon.
Mais ça fait des belles images, là.
Ah ouais, ça fait des belles
images. Le feu à vol d'oiseau, là, non?
Ouais. La majorité des répondants pensent, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, la majorité des répondants pensent que les médias sociaux véhiculent de la mauvaise information sur les ovnis. Donc, et effectivement, je peux te confirmer que ce qu'on trouve chez les médias sociaux, c'est à peu près le pire de ce qu'on peut trouver.
Hein? Ouais.
Les gens donnent n'importe quoi, disent n'importe quoi, on vérifie rien. Il suffit de mettre une vidéo sur YouTube d'un ovni, puis hop, ça fait le tour du monde, puis les gens y croient. Ce qui m'a frappé dans le sondage quand même, et ça c'est un peu rassurant, 70% des gens ont répondu qu'ils ignoraient ce qu'était la nature réelle des ovnis. Et ensuite, seulement 10%, dans le 30% qui reste, seulement 10% d'entre eux disent « ce sont des extraterrestres ». Alors que les 20 autres pourcents, eux, disent « c'est soit des canulars, soit des erreurs d'interprétation, des phénomènes atmosphériques, etc. » Donc, on a un 70% qui disent « je ne sais pas » et un 20% qui disent ben, « c'est probablement des phénomènes atmosphériques, des avions, des hélicoptères, des canulars. » Mais on voit que l'extraterrestre, même s'il est très présent dans les médias, très présent dans les médias sociaux, on voit que cette adhésion que OVNI égale visiteur extraterrestre reste encore quand même marginal et ne rejoint dans l'hypothèse que 10% des sondés, à tout le moins, dans ce sondage-là.
C'est rassurant quand même.
Oui, ça au moins on voit que la contamination n'a pas été trop étendue. et sans surprise, 27% des répondants ont dit qu'ils avaient à un moment donné ou un autre de leur vie observé un phénomène aérien qu'ils avaient été incapables d'identifier. Donc, voilà pour ce rapport. Les gens peuvent le consulter. Écoute, je mettrai peut-être l'adresse après sur le site de Radio X-Files, mais c'est disponible sur le site du gouvernement canadien. Je rappelle encore le titre, « Gestion des signalements publics de phénomènes aériens non identifiés au Canada », un rapport plein de bon sens.
Ça met très bien la table pour la nouvelle saison de Radio X-Files. Christian, je te remercie beaucoup. J'ai hâte à la semaine prochaine. Et d'ici là, il y a toujours la deuxième saison de Suspect X aussi sur les ondes de Radio X. Et ça, c'est le lundi à 22h.
Absolument.
Bon week-end, Christian, et aux auditeurs également.
Toi aussi. Ciao.
Bye-bye.